Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue depuis Temple Square à la réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes. Cette réunion est retransmise depuis le centre de conférence où la conférence générale est diffusée chaque année en avril et octobre. Nous souhaitons une bienvenue particulière à ceux qui assistent pour la première fois. Nous espérons que ces réunions spirituelles vous fortifieront et enrichiront votre vie. Je suis Chad Webb, administrateur des séminaires et instituts de l'Église. Nous sommes heureux d'accueillir Dieter Hutschdorf, qui préside cette réunion ce soir. Sa femme, Harriet, l'accompagne, et nous sommes ravis de les écouter tous les deux. Nous saluons aussi la présence de Kim Clark, le commissaire à l'éducation de l'Église, ainsi que sa femme, Sue. Sont également présents sur l'estrade des membres des 70, des présidents de nombreux pieux de jeunes adultes seuls d'Utah et des administrateurs du département d'éducation de l'Église. Pour commencer cette soirée, nous chanterons le cantique « Ce jour au cœur, j'ai du soleil », le numéro 41 dans le recueil de cantiques français. Nous remercions Maura Chilcott de la 3e paroisse des jeunes adultes seuls de Riverton, qui dirigera la musique, et l'organiste du tabernacle, Linda Margas, qui nous accompagnera. Après le cantique, Scott Oliphant, de la paroisse des jeunes adultes seuls de Jordan, fera la prière d'ouverture. Ô cher Père Céleste, nous baissons la tête devant toi dans cette veillée mondiale pour te remercier pour les nombreuses bénédictions que nous avons reçues et pour cette occasion que nous avons d'écouter le président Hausdorff et son épouse. Père, nous te demandons ce soir de nous bénir avec ton esprit afin que nous puissions recevoir des révélations d'en haut, que nous puissions ouvrir notre cœur, notre esprit, afin que nous puissions recevoir ce message et que nous puissions l'appliquer dans notre vie, le mettre en pratique dans notre vie. Nous sommes reconnaissants pour le jour du sabbat, Père, l'occasion que nous avons de renouveler nos alliances avec toi. Bénis-nous, afin que nous puissions nous rappeler ces alliances, que nous puissions être des exemples pour les gens qui nous entourent, que nous puissions prier, être des exemples, que nous puissions avoir l'occasion de partager notre témoignage avec ceux qui sont autour de nous. Père, nous sommes reconnaissants pour le sacrifice de ton Fils, notre Seigneur. Bénis-nous afin que nous puissions appliquer l'expiation dans notre vie afin de nous rapprocher de toi. Nous t'aimons, Père, et nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous disons ces choses humblement au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Ce soir, un chœur combiné de jeunes adultes de Pieux, de l'Université Brigham Young et de l'Université d'Utah chantera s'il était là à mes côtés. Le chœur sera dirigé par Marshall McDonald, instructeur à l'Institut de Salt Lake City, et sera accompagné par Sœur Margetts. À la suite de l'intermède musical, nous aurons le plaisir d'entendre Sœur Hausdorff, suivie de Frère Hausdorff. À la fin de leur discours, notre chœur combiné de l'Université Brigham Young et de l'Université d'Utah chantera Quel fondement ferme. Il sera dirigé par Ryan Eggett, un instructeur de l'Institut d'Utah Valley. Et ensuite, Sally Desotel, de la paroisse des jeunes adultes seuls de Capitol Hill, fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter les orateurs de ce soir. Dieter Hausdorff et Harriet a grandi en Allemagne et ils se sont rencontrés en Allemagne, lui et sa femme, et ils ont été membres de pratiquants de la branche de Francfort. Ils se sont mariés en 1962. Ils ont 2 enfants et 6 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. En 1994, Frère Hausdorff est appelé autorité générale et est soutenu comme membre du Collège des 12 apôtres en octobre 2004. Il est appelé comme membre de la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en février 2008. Frère Hausdorff est né à Ostrava, en Tchécoslovaquie. En 1947, sa famille devient membre de l'Église à Witzkow, en Allemagne. Il suit une formation en ingénierie à Francfort-sur-le-Main et en 1959, il s'engage dans l'armée de l'air allemande où il est pilote de chasse pendant 6 ans. En 1965, il débute une carrière de pilote de ligne pour la compagnie d'aviation allemande Lufthansa. En tant que capitaine, il pilote les Boeing 737, des Airbus, des DC-10 et des Boeing 747. Il est aussi formateur et vérificateur et dirige plusieurs postes de gestion. Il est chef de groupe de pilotes de Boeing 737, responsable de l'école de pilotage de la Lufthansa en Arizona, responsable de tout le personnel de cabine et enfin vice-président des opérations en vol et pilote en chef de la Lufthansa. Il est aussi directeur du comité des opérations en vol de l'Association internationale du transport aérien. Sœur Harriet Reitsch est née en Allemagne du Nord, dans la ville médiévale de Wulandbüttel. Elle obtient une licence en administration des affaires. Elle sert dans des présidences et en tant qu'instructrice de paroisse et de pieux au sein de la société de secours, les jeunes filles et la primaire, parmi d'autres appels. Elle aime et connaît la littérature mondiale ainsi que la musique classique. Elle s'intéresse à pratiquement toutes les formes d'art. Elle collectionne des objets et des peintures du monde entier. Dieter et Harriet Hausdorff apprécient les activités de plein air, Ils aiment les arts et éprouvent la plus grande joie à passer du temps avec leur famille. Le chœur chantera maintenant « S'il était là, à mes côtés ».
Merci au cœur magnifique. Mes chers frères et sœurs, mes chers jeunes amis, vous êtes magnifiques. Vous êtes vraiment magnifiques. Vous êtes incroyables. J'aimerais pouvoir prendre chacun de vous dans mes bras. La semaine dernière a été un moment de tristesse et de gratitude. J'aime Président Monson. Il va me manquer, mais je sais où il est maintenant et il doit être heureux d'avoir retrouvé et d'être avec sa compagne éternelle, Frances. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'aime le fait d'être ici aussi avec mon apôtre préféré. Je sais que nous ne devrions pas faire de préférence. Mais dans mon cas, ça semble acceptable, car c'est mon mari. Nous venons tout juste de fêter notre 55e anniversaire de mariage. Et nous sommes toujours aussi amoureux l'un de l'autre. Ce sont les fruits de l'Évangile. Lorsqu'en de telles occasions, nous recevons des messages d'amour et de félicitations de la part de nos petits et arrière-petits-enfants, on prend conscience de la vraie valeur de l'Évangile et de notre appartenance à l'Église. Ceux d'entre vous qui sont célibataires, divorcés ou qui font face à des situations familiales difficiles, sachez que Dieu vous connaît et vous aime. Si vous restez fidèles à vos alliances, les joies de la vie de famille vous seront accordées et ne seront pas écourtées. Je ne sais pas exactement comment ça se fera, mais je sais que la grâce du Seigneur, sa miséricorde et son amour suffisent à chacun de nous. Il fera en sorte que ces choses arrivent en son temps et à sa façon. Dieter et moi avons grandi dans la même branche à Francfort, en Allemagne. Je savais qu'il avait un faible pour moi, mais il ne m'intéressait pas vraiment. Il était gentil et nous étions amis. Nous avons appris à danser ensemble lors d'activités à l'église. C'était l'époque du foxtrot, du boogie-woogie et du rock'n'roll. Après quoi, il a rejoint l'armée de l'air pour devenir pilote de chasse et nous ne nous sommes pas vus pendant presque 2 ans. Pour être honnête, lorsqu'il est revenu à Francfort, ma première impression était plutôt négative. Il ressemblait un peu à ces personnages du film Top Gun. Mais lorsqu'il m'a adressé la parole, j'ai été un peu impressionnée. Assurément, il avait mûri pendant ces 2 ans. Il savait ce qu'il voulait faire dans la vie. Il était fermement engagé dans l'Évangile. Il s'est montré aussi très déterminé dans sa cour. Et quelques mois plus tard, nous étions mariés et mon nom a été changé de Raj à Hugdorf. Mes chers jeunes amis, je n'ai jamais regretté d'avoir pris le temps de bien regarder, même après cette première impression incertaine. Dieter est l'amour de ma vie et il est fier d'être le père de nos enfants et le grand-père de nos petits-enfants. Et sachez que nous aimons danser ensemble encore aujourd'hui. Laissez-moi revenir à l'époque de mes 12 ans. C'était une période sombre de ma vie. Mon père était mort d'un cancer quelques mois plus tôt. C'était un très bon père, un mari aimant et un homme très bon. Il était instruit, parlait 5 langues, jouait de plusieurs instruments de musique en tant que musicien professionnel dans un orchestre symphonique et venait d'une famille de musiciens reconnus de Francfort. Mes parents attendaient beaucoup de moi. L'avenir semblait radieux et prometteur, même après les années destructrices de la Seconde Guerre mondiale. Mais les années de maladie de mon père avaient fait de notre foyer un lieu de souffrance, de tristesse et de désespoir. Après le décès de mon père, ma mère est devenue très déprimée. Nous assistions à l'office de notre église protestante chaque dimanche, mais nous ne trouvions pas le baume de Galaad. Rien ni personne ne pouvait réconforter ma mère. En fait, pas vraiment. Notre Père Céleste, dans son grand amour, ne nous avait pas oubliés. 8 mois après le décès de mon père, 2 missionnaires américains ont frappé à la porte de notre maison à Francfort. Ces 2 missionnaires, guidés par l'esprit et bien préparés, savaient exactement ce dont notre petite famille avait besoin. Ils ont donné un précieux exemplaire du Livre de Mormon à ma mère. Ma mère aimait lire, elle aimait la Bible. Elle fut immédiatement captivée par ce nouveau livre d'écriture. Quand elle a commencé à lire le Livre de Mormon, elle n'a pas pu s'arrêter. Elle l'a lu de la première à la dernière page. Ma mère était tellement enthousiasmée par le message qu'elle nous faisait asseoir, ma sœur et moi, pour l'écouter nous lire des passages qui semblaient avoir été écrits pour elle, pour nous. Au cours des dernières semaines de la vie de mon père, je me tenais souvent à la fenêtre de notre appartement en priant pour que sa peine et la nôtre soient soulagées d'en haut. Et la réponse vint. Elle vint grâce au message de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Oh, comme j'aime le Livre de Mormon! Comme j'aime le plan du salut, le plan du bonheur! Quelle lumière et quel message d'espoir merveilleux et puissant nous sont donnés par notre Père Céleste! Tandis que nous acceptions le Livre de Mormon, il a apaisé notre cœur et chassé le désespoir et la tristesse causée par le décès de mon père. Grâce à lui, il n'y avait plus d'obscurité dans notre foyer, puisque la lumière et l'obscurité ne peuvent occuper le même espace en même temps. Nous ressentions l'esprit très fort et nous savions de tout notre cœur et de tout notre esprit que le message qu'enseignaient les missionnaires était vrai. La paix était revenue dans notre foyer. Le message de l'Évangile et l'appartenance à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont accompli de vrais miracles dans notre famille. C'était comme si des anges nous avaient été envoyés. Nos missionnaires étaient 2 jeunes adultes. Ils avaient à peu près votre âge. Ils n'avaient rien d'impressionnant en eux-mêmes, mais ils étaient 2 anges de gloire envoyés par Dieu. Leur désir de faire sa volonté en parole et en action m'a apporté les bénédictions de l'Évangile rétabli. Mes chers jeunes amis, votre nature est tout aussi divine. Certains d'entre vous sont mariés, d'autres célibataires, mais vous vivez tous parmi les gens de ce monde. Vous êtes ceux qui ont été choisis pour notre époque. Et par vos paroles et vos actions, vous enseignez le message de l'Évangile à votre peuple et le vivez. C'est dans ce but que vous avez été placé dans votre ville ou dans votre village, dans votre école, sur votre lieu de travail, dans votre pays et votre famille. N'oubliez pas, vous avez le potentiel d'être des anges de gloire pour les personnes qui vous entourent. Vous êtes des représentants de l'Église de Jésus-Christ et des dirigeants puissants en proclamant le message de l'Évangile au travers de votre vie courageuse et de votre témoignage. Un dirigeant est quelqu'un qui aide les autres à voir, à ressentir et à trouver le bon chemin. Mes chers jeunes amis, s'il vous plaît, aidez-vous les uns les autres à rester profondément enracinés dans l'Église et dans l'Évangile. Dieu vous a placés dans un endroit où vous avez de nombreuses occasions d'être des instruments dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il compte sur vous, il vous connaît, il vous fait confiance et il vous rendra fort. Il vit. Il est réel. Chaque mot ou geste simple de bonté, d'intégrité, de charité, de gentillesse, de service, d'amour, de compassion peut devenir une de vos actions de dirigeant dans le royaume de Dieu. Ne sous-estimez pas votre influence et votre force bienfaitrice. Deux jeunes hommes de votre âge m'ont aidé à voir le sentier qui mène à notre Sauveur et qui nous ramène à notre Père Céleste. Bien sûr, j'ai moi-même dû emprunter ce sentier, surmonter les difficultés, faire face à des choix difficiles et prendre de bonnes décisions. Et vous le ferez aussi. L'Église du Seigneur met à votre disposition de très grandes ressources afin que vous puissiez accomplir le but de votre existence. Le Livre de Mormon est l'une d'elles et il est là, devant vos yeux. Rapprochez-vous de lui et acceptez-le ainsi que ses enseignements. Rapprochez-vous de notre Père Céleste et il vous guidera. Faites confiance au Seigneur. Mes chers jeunes amis, soyez assurés de mon amour et de ma gratitude pour chacun de vous. Nos prières et nos pensées vous accompagnent. Vous faites partie de cette œuvre grande et sacrée de notre Rédempteur. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Am I blessed?
Je suis béni, n'est-ce pas? Elle est merveilleuse, une amie formidable, et je l'aime beaucoup. Et nous vous aimons. Nous vous aimons. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, je vous transmets l'amour et les bénédictions du Collège des Douze Apôtres. Le président Monson me manque. Il était mon modèle, mon tuteur et mon très cher ami. Mais je peux vous assurer que le Seigneur lui-même est à la tête de son Église, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Dans son plan divin, le Seigneur a fait que son Église soit toujours dirigée par des prophètes, voyants et révélateurs. Nous pensons à vous continuellement. Nous prions pour vous. Nous vous aimons et nous vous admirons. L'événement mondial de service et de partage qui a précédé cette réunion et qui va la suivre n'est qu'un exemple de votre bonté. Des dizaines de milliers d'entre vous ont participé de manière remarquable pour aider les personnes dans la détresse, pour édifier les âmes par le chant, et ce cœur est quelque chose de très spécial, n'est-ce pas? C'est magnifique et c'est un exemple que l'Université d'Utah et l'Université Brigham Young peuvent travailler en harmonie. Et vous êtes aussi ici pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ par le biais de médias sociaux et d'autres moyens. Merci de montrer une telle disposition à servir Dieu et vos semblables. C'est une très bonne chose d'être avec vous aujourd'hui et de ressentir votre force, votre énergie. Je suis très heureux que nous ayons eu l'occasion d'entendre ma femme Ariette. Elle est vraiment mon rayon de soleil. Toutes les personnes qui la connaissent, l'apprécient. Elle est de ceux qui aident leur entourage à s'améliorer et qui rendent les gens heureux. Elle a assurément eu cette influence sur moi. Nous venons de célébrer notre 55e anniversaire de mariage et lorsque nous regardons nos deux enfants et leurs conjoints, nos 6 petits-enfants avec leur famille et nos 3 arrière-petits-enfants, nous sommes émerveillés de la magnifique aventure qu'a été notre vie. Une pensée intéressante m'est venue en préparant cette réunion. C'est vrai, les années de mes 18 à 30 ans sont à peine visibles dans mon rétroviseur. Mais malgré l'âge que j'ai aujourd'hui, je me sens toujours jeune. Croyez-le. En fait, la plupart d'entre nous qui sommes plus âgés nous considérons comme des jeunes qui ont tout simplement vécu très longtemps. Les générations précédentes ont avec vous bien plus de points communs que vous ne le pensez. Je pense que les différences entre les enfants de notre Père Céleste, quel que soit leur âge, soient minimes comparées aux similitudes. Par exemple, un grand nombre d'entre vous ont des questions sur Dieu et sur eux-mêmes, de profondes questions fondamentales qui sont semblables à celles que les personnes plus âgées que vous se posent. Dieu existe-t-il vraiment? Se soucie-t-il de nous? Suis-je sur le bon chemin? Pourquoi est-ce que je me sens parfois vide, accablé, ignoré ou seul? Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu dans ma vie? Pourquoi n'a-t-il pas exaucé une prière? Pourquoi a-t-il permis que cette tristesse, cette maladie ou cette tragédie m'arrive? Ce sont des questions auxquelles il peut être difficile de répondre. À cette époque de réponses instantanées, où la connaissance absolue apparemment insaisissable n'est qu'à un clic d'une recherche Google, nous sommes parfois frustrés lorsque la réponse à nos questions les plus personnelles, les plus importantes et les plus urgentes n'arrive pas. Nous élevons notre cœur au ciel et tout ce que nous semblons obtenir est un agaçant curseur d'attente qui ne cesse de tourner. Nous n'aimons pas attendre. Quand nous devons attendre quelques secondes qu'un moteur de recherche réponde, nous commençons à supposer que la connexion est limitée ou rompue. Par frustration, il nous arrive même d'abandonner la recherche. Mais quand nos questions sont d'ordre spirituel et éternel, et qu'elles ont une portée donc éternelle, nous devons être plus patients. Toutes les réponses ne se valent pas. Les réponses qui viennent de la sagesse du monde ou de l'opinion populaire nous parviennent facilement. Mais bien vite, elles ne valent plus grand-chose quand émergent de nouvelles théories ou de nouvelles modes. Les réponses célestes, les réponses éternelles n'ont pas de prix. Obtenir ces réponses nécessite souvent des sacrifices, des efforts et de la patience. Ces réponses valent la peine qu'on les attende. Aujourd'hui, j'aimerais vous témoigner que notre Père Céleste vous connaît. Il vous entend et ne vous abandonnera jamais. Tandis que vous tournez votre cœur vers lui et vous efforcez de suivre ses voies, il interviendra dans votre vie et dirigera vos pas dans votre voyage à travers cette grande et passionnante aventure de la vie mortelle. L'un des champions de l'innovation de notre époque, Steve Jobs d'Apple, a exprimé cette idée. Vous ne pouvez relier les points en regardant vers l'avant, a-t-il dit. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. Alors vous devez croire que les points vont d'une manière ou d'une autre se relier dans le futur. Que voulait-il dire par là? Une illustration aidera sûrement. À la fin du 19e siècle, des artistes comme Georges Seurat et Paul Signac ont lancé un nouveau style de peinture qui sera connu sous le nom de néo-impressionnisme. Leur technique consistait à recouvrir la toile de petites touches de couleurs. de près, ces points apparaissent séparés et disposés de façon aléatoire. Mais quand on regarde la peinture entière, on peut voir comment la couleur des points se mélange et comment les couleurs donnent des formes qui révèlent une scène magnifique. Ce qui pouvait sembler arbitraire et même déconcertant commence à avoir du sens. Parfois, notre vie ressemble à du néo-impressionnisme. Les points de couleur qui composent les moments et les événements de nos journées peuvent sembler sans lien au premier abord. Nous avons l'impression qu'ils sont placés n'importe comment. Nous n'imaginons pas du tout qu'ils ont un but. Cependant, si nous prenons du recul et que nous les regardons d'un point de vue éternel, quand nous examinons notre vie dans le cadre de l'Évangile de Jésus-Christ, on commence à voir la manière dont les différents points se relient. On ne voit pas encore l'ensemble de l'image, mais on en voit assez pour croire que c'est un beau et grand dessein. En nous efforçant de faire confiance à Dieu et de suivre Jésus-Christ, un jour, nous verrons l'œuvre finale et nous saurons que la main même de Dieu dirigeait et guidait nos pas. Nous saurons que le maître avait toujours eu un plan pour ses touches de peinture aléatoire. Nous verrons qu'il a fait grandir nos talents, préparé des occasions et qu'il nous a fait découvrir des possibilités beaucoup plus glorieuses que ce que nous aurions imaginé ou accompli seuls. C'est tout à fait ce que j'ai vu dans ma propre vie. Beaucoup d'entre vous savent que lorsque j'étais très jeune, ma famille a été forcée de fuir chez nous à deux reprises. À ces deux occasions, il semblait assez manifeste que les personnes qui nous côtoyaient dans nos nouvelles demeures nous voyaient comme étant inférieurs. Chez les enfants de mon âge, mon accent faisait de moi un étranger, et c'était pour eux une grande source de ridicule et de rire. Mes parents avaient du mal à nourrir notre famille. Ma mère a lancé une entreprise de blanchisserie et je faisais office de livreur à domicile avec ma bicyclette et ma charrette après l'école. Le traumatisme et le stress de nos déménagements ont été à l'origine d'un retard dans mes études. Et j'ai perdu toute une année scolaire. En Allemagne de l'Est, j'avais appris le russe comme deuxième langue. C'était difficile, mais je m'en suis sorti. Puis, en Allemagne de l'Ouest, il a fallu que j'apprenne l'anglais. Cela me semblait impossible. J'étais convaincu que ma bouche n'était simplement pas faite pour la langue anglaise. Pendant mon adolescence, je suis tombé amoureux d'une fille magnifique aux beaux yeux marrons. Malheureusement, Harriet ne montrait pas le moindre intérêt pour moi. Peu importe ce que je tentais, rien ne marchait. Enfin, vous avez entendu sa version de l'histoire. Alors, voilà où j'en étais. Un jeune homme sans grande importance et en difficulté, vivant dans l'Allemagne de l'après-guerre et qui semblait n'avoir aucune chance de succès dans la vie. Mais il y avait quand même deux choses positives. Je savais que ma famille m'aimait. À l'école et à l'église, il y avait des instructeurs qui m'incitaient à toujours me fixer des objectifs élevés. Je me souviens encore de l'enseignement d'un jeune missionnaire américain qui avait enseigné ce principe tiré des Écritures. Il a dit, « Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous ?» C'est quelque chose qui m'avait frappé avec une grande force. Je me suis dit, Si c'est vrai, pourquoi devrais-je craindre? Alors, je l'ai cru et j'ai fait confiance à Dieu. Pendant un temps, j'ai été en apprentissage. L'un de mes professeurs m'a poussé à viser plus haut et à suivre des cours du soir pour étudier l'ingénierie mécanique. Cela a requis beaucoup de travail supplémentaire, mais m'a permis de découvrir ma grande passion pour l'aviation. Cela a été pour moi un choc d'apprendre que pour devenir pilote, je devais connaître l'anglais. Mais je voulais devenir pilote. Et miraculeusement, ma bouche a semblé changer et l'anglais ne m'a plus semblé aussi impossible à apprendre. Avec une nouvelle motivation, un nouvel engagement à travailler dur et avec ma confiance en notre Père Céleste, j'ai suivi de petites étapes qui ont bâti en moi la confiance que je pouvais y arriver. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout a été facile. À 19 ans, je me suis rendu à San Antonio, au Texas, pour commencer ma formation de pilote de l'armée de l'air. Dans l'avion, j'étais assis à côté d'un homme qui parlait avec un fort accent texan. Avec horreur, je me suis rendu compte que l'anglais que j'avais eu tant de mal à apprendre n'était pas celui qu'on parlait au Texas. À l'école de formation des pilotes, ce n'était pas facile non plus. C'était un programme extrêmement compétitif, chacun visant la meilleure place à l'issue de la formation. J'ai su dès le début que j'étais désavantagé, car l'anglais était la langue maternelle de la plupart de mes camarades de classe. Mes instructeurs de vol me mettaient en garde contre un autre désavantage possible, le temps important que je passais à l'église. Les membres locaux m'avaient accueilli dans leur branche et dans leur foyer, et nous avions même bâti une église à Big Spring ensemble. Mes instructeurs de vol se demandaient si de telles activités n'allaient pas réduire mes chances de figurer dans les meilleures places. Je ne le pensais pas. Alors j'ai fait confiance à Dieu et j'ai fait de mon mieux. Finalement, j'ai appris l'anglais, même si j'y travaille encore aujourd'hui. J'ai terminé ma formation de pilote et j'ai fini premier de ma classe. Je suis devenu pilote de chasse et plus tard pilote de ligne. Et la belle fille aux yeux marrons de mes rêves, elle est ici même avec moi. Y a-t-il une leçon à tirer de cela? Je pense qu'il y en a plusieurs. En voici une. Ne vous découragez pas devant les nombreuses grandes difficultés de la vie. Si vous vous engagez à faire les choses faciles, les petites choses que Dieu vous demande de faire, et si vous les faites aussi parfaitement que vous le pouvez, de grandes choses suivront. Parmi ces choses, petites et faciles, que vous pouvez faire parfaitement, il y a la prière quotidienne, l'étude des Écritures, le respect de la parole de sagesse, l'assistance à l'Église, la prière avec une intention réelle et le paiement de la dîme et des offrandes. Faites ces choses même lorsque vous n'avez pas envie de les faire. Ces sacrifices peuvent paraître insignifiants, mais ils sont importants, car que de faveurs viennent du sacrifice. Dans un sens, vos sacrifices petits et simples deviennent les points de votre vie de tous les jours et constituent le chef-d'œuvre qu'est votre vie. Vous ne voyez peut-être pas encore comment ces points se relient entre eux. Ayez simplement assez de foi pour vivre le moment présent. Faites confiance à Dieu et de ces petites choses sortira ce qui est grand. Maintenant, vous vous dites, oui, frère Hochdorf, tout ça, c'est bien pour vous. Mais vous êtes un apôtre. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas si important aux yeux de Dieu. Il ne répond pas à mes prières. Il ne guide pas ma vie. S'il y a un plan pour moi, j'en ai une vieille version par rapport à vous. C'est un plan de seconde main. Un plan où l'on vous tapote sur l'épaule pour que vous vous contentiez de ce que vous avez. Mes chers amis, souvenez-vous de ce qu'a dit Steve Jobs. Vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avant. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. Lorsque j'avais votre âge, je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais devenir. Je ne voyais aucun point se relier devant moi. Mais je faisais confiance à Dieu. J'écoutais les conseils des membres aimants de ma famille et de mes sages amis. Et j'ai fait des petits pas avec foi, croyant que si je faisais de mon mieux à ce moment donné, Dieu s'occuperait du tableau d'ensemble. Il l'a fait. Il connaissait la fin depuis le commencement et moi, non. Je ne pouvais pas voir l'avenir, mais lui, si. Même pendant ces périodes de difficulté, lorsque je pensais que j'étais seul, abandonné et découragé, il était avec moi. Je le sais maintenant. Dans le livre des Proverbes se trouve cette promesse magnifique. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il n'y a pas de point d'interrogation à la fin de ce verset. Je pense qu'il devrait y avoir un point d'exclamation. Vous devez donc vous poser la question suivante. Puis-je rassembler suffisamment de foi pour croire Dieu? Suis-je disposé à être convaincu qu'il m'aime et veut me guider? En fait, s'il se peut que vous fassiez très bien par vous-même dans beaucoup de domaines, mais je vous en supplie, croyez que votre vie sera infiniment meilleure si vous vous reposez sur Dieu pour être guidé. Il connaît des choses qu'il vous est impossible de savoir et il vous a préparé un avenir que vous ne pouvez même pas imaginer. Le grand apôtre Paul a témoigné, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voulez-vous que notre Père Céleste vous guide, vous bénisse et vous soutienne? Alors croyez-le. Aimez-le. Recherchez-le de tout votre cœur. Marchez dans ses voies en respectant les commandements, en honorant vos alliances, en suivant les enseignements des prophètes et en écoutant les murmures du Saint-Esprit. Faites cela et Dieu vous augmentera 1000 fois autant et vous bénira comme il vous l'a promis. Je comprends que pour certains, cela puisse sembler plus facile à dire qu'à faire. Il n'y a pas besoin d'aller très loin dans la culture d'aujourd'hui pour entendre des voix contradictoires qui découragent ou même ridiculisent la croyance en Dieu et en notre religion. De nos jours, des avancées technologique sans précédent dans nos modes de communication amplifie ces voix. C'est votre difficulté, mais c'est aussi votre privilège. Je suis convaincu que vous saurez quoi faire et le ferez à la manière du Sauveur. Cela fait partie de l'œuvre du salut. La façon dont vous accomplirez ces choses influencera votre avenir et le rôle que vous jouez dans l'œuvre de Dieu ici-bas. Cependant, votre expérience dans la condition mortelle n'est pas unique. Votre génération n'est pas la seule à avoir vu sa foi en Dieu mise en doute et raillée. En fait, cela semble faire partie du test de la condition mortelle de tous les enfants de Dieu. Si vous étiez du monde, le Seigneur a dit à ses disciples, « Le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Vous devez également accepter le fait que lorsque vous vous engagez à suivre le Sauveur, les résidents du grand et spacieux édifice manifesteront, parfois de façon bruyante, leur désapprobation. Ils peuvent essayer de vous intimider et de vous couvrir de honte. Mais souvenez-vous que ce n'est pas à eux que vous rendez des comptes, mais à Dieu. Un jour, vous vous tiendrez devant lui et ferez rapport de votre vie. Il vous demandera si vous êtes parvenu à surmonter les tentations du monde et à suivre le chemin de la justice. Il vous demandera si vous avez suivi le Sauveur, si vous avez aimé votre prochain et si vous avez essayé sincèrement de suivre le chemin du disciple. Mes chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux. Vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions extraordinaires d'un disciple tout en restant inscrit sur les registres de la première paroisse de Babylone. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, il est maintenant le temps de vous engager vis-à-vis du Christ et de suivre son chemin. Un jour, tous les enfants de Dieu sauront ce qui est juste, même ceux qui aujourd'hui se moquent de la vérité. Ils fléchiront les genoux et confesseront que Jésus est le Christ, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Ils sauront qu'il est mort pour eux. Ce jour-là, vous saurez que sa voix est la seule qui ait jamais eu d'importance. À ce moment-là, vous saurez avec certitude à quel point vous êtes béni parce que vous avez gardé la foi, respecté les commandements de Dieu, servi vos semblables et édifié le royaume de Dieu sur la terre. Mes chers amis, croyez. Et Dieu sera avec vous. Tournez votre cœur vers lui, et il vous guidera dans votre voyage à travers la grande aventure de la vie mortelle. Maintenant, j'aimerais clarifier un point concernant le fait de laisser Dieu guider notre vie. Il se peut que vous n'appréciez pas ce que je vais vous dire. Lorsque vous demandez à Dieu ce que vous devez faire concernant certaines décisions, parfois importantes, des décisions importantes de votre vie, il se peut que la réponse reste vague. Le fait est que parfois la décision que vous prenez importe peu au Seigneur, du moment que vous restez fidèle aux alliances fondamentales et aux principes de l'Évangile. À vrai dire, les choix que vous faites ne sont peut-être pas aussi importants que ce que vous faites après avoir pris cette décision. Par exemple, un jeune couple peut décider de se marier même si certains membres de leur famille considèrent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Cependant, je suis plein d'espoir pour un tel couple qui, après avoir pris leur décision, reste fidèle l'un envers l'autre et envers le Seigneur de tout leur cœur et de tout leur esprit, en se traitant avec amour et gentillesse et en se préoccupant des besoins émotionnels, spirituels et temporels de l'autre. En faisant ces petites choses constamment, ils arriveront à la parfaite adéquation. À l'inverse, un couple qui pense avoir choisi le partenaire parfait se dit que le plus dur est fait. S'ils arrêtent de se faire la cour, de communiquer en tête à tête et retournent à une vie égoïste et égocentrique, ce couple est sur un chemin qui mène au chagrin et au remords. Il en est de même pour les choix de carrière. J'ai beaucoup d'espoir pour ceux qui choisissent un métier moins prestigieux, mais qui font tout leur possible pour le rendre intéressant et stimulant. J'en ai moins pour ceux qui choisissent un métier au titre ronflant et qui, le long du chemin, perdent ce feu intérieur nécessaire au succès. En fait, l'attribut majeur que devra développer votre génération est celui de l'adaptation au changement du milieu du travail. Mais vous y arriverez. Vous êtes bon. Vous êtes béni. Donc, comment le Seigneur souhaite-t-il que vous abordiez ces décisions importantes? Ces instructions à Oliver Cowdery et Joseph m'ont été d'un grand secours. Le Seigneur leur a dit, « Tu dois l'étudier dans ton esprit. Alors, tu dois me demander si c'est juste. » Notre Père Céleste nous a donné un cerveau et un cœur. Si vous faites confiance au Seigneur, il vous aidera à vous servir correctement des deux pour prendre vos décisions. Dans de nombreux cas, vous devrez choisir entre plusieurs bonnes options. Lorsque cela arriva à Joseph et à ses compagnons, ils cherchèrent à être guidés par le Seigneur et ce dernier utilisa une phrase assez intéressante. Il dit « Peu m'importe ». Mais le Seigneur ajouta immédiatement « Seulement soyez fidèles ». Votre responsabilité est de prendre les meilleures décisions basées sur les valeurs et les principes de l'Évangile en fonction des informations en votre possession. Ensuite, vous devez être fidèle et vous efforcer de toutes vos forces pour réussir ce que vous avez entrepris. Faites cela et les points se relieront. Cela peut paraître déroutant d'entendre que Dieu ne vous donnera pas forcément un itinéraire détaillé de votre périple dans cette condition mortelle. Mais voulez-vous vraiment être guidé dans tous les aspects de votre vie? Voulez-vous vraiment que quelqu'un vous donne les codes de triche avant d'avoir la possibilité de résoudre les choses par vous-même? Quel genre d'aventure cela serait-il? Mes chers amis, l'aventure de la vie mortelle ne se vit qu'une fois. Une démonstration sur mesure, pas à pas, comprenant des révélations sur l'intrigue et les réponses aux grandes questions de la vie, n'enlèverait-elle pas le magnifique sentiment d'accomplissement et le développement de votre assurance devant Dieu et de votre confiance personnelle? Comme Dieu vous a donné le libre arbitre, vous pouvez choisir d'aller dans de nombreuses directions et continuer de mener une vie épanouie. La vie est une histoire dont vous choisissez le scénario et la fin. Vous avez des commandements, des alliances, des conseils prophétiques et vous avez le don du Saint-Esprit. C'est amplement suffisant pour vous mener de la joie terrestre au bonheur éternel. Ne vous découragez pas s'il vous arrive de prendre des décisions qui sont loin d'être parfaites, même des erreurs. C'est comme cela qu'on apprend. Cela fait partie de l'aventure de la condition mortelle. Aucune aventure se déroule sans encombre du début à la fin. Mais si vous êtes fidèle, vous avez l'assurance d'un dénouement heureux. Rappelez-vous la leçon de Joseph d'Égypte. En de nombreux points, sa vie semblait être un désastre. Ses frères l'ont vendu. Il fut jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. En dépit des terribles circonstances qui lui furent imposées, il était resté fidèle. Il faisait confiance à Dieu. Il a tiré parti de sa situation, année après année, même lorsque tout laissait croire qu'il avait été ignoré et abandonné, il a gardé la foi. Joseph a toujours tourné son cœur vers Dieu. Et Dieu lui montra qu'il était capable de transformer les points négatifs en points positifs. Aujourd'hui, près de 4000 ans plus tard, nous trouvons toujours de l'inspiration dans l'histoire de Joseph. Votre aventure ne sera pas aussi spectaculaire. Et je l'espère. Mais il y aura des hauts et des bas. Alors, rappelez-vous l'exemple de Joseph et restez fidèle. Croyez. Soyez honnête. Ne devenez pas amer. Ne soyez pas tyrannique. Aimez Dieu. Aimez votre prochain. Peu importe d'où ils viennent ou de leur situation économique. Faites confiance au Seigneur, même lorsque les choses semblent sombres. Il faudra du temps pour vous en rendre compte, mais vous regarderez en arrière et vous saurez que le Seigneur vous guidait sur le chemin. Les points ont été liés et reliés. À présent, voilà ce que j'aimerais que vous reteniez de ce moment passé ensemble ce soir. Premièrement, sachez que les réponses que Dieu vous donne peuvent prendre un peu de temps et venir d'une façon inattendue. Mais toutes les réponses de Dieu ont une valeur éternelle. Elles valent la peine qu'on les attende. Deuxièmement, faites preuve d'un peu de foi. Tournez votre cœur vers Dieu. Sachez que vous êtes important pour Dieu. Et soyez sûr qu'il peut faire de vous une personne bien meilleure que ce que vous pourriez devenir seul. Apprenez du Seigneur. Aimez-le. Croyez en lui. Parlez avec lui. Écoutez sa voix. Troisièmement, faites de votre mieux pour avancer sur le chemin du disciple. Ne vous découragez pas. Faites simplement et le plus parfaitement possible, les petites choses et les grandes choses se mettront en place d'elles-mêmes. Quatrièmement, ne laissez pas les voix décourageantes vous écarter de votre périple de foi. Souvenez-vous, vous ne répondez pas aux critiques. Vous répondez à notre Père Céleste. Seul son point de vue compte. Cinquièmement, prenez les meilleures décisions possibles. Discutez des idées qui viendront dans votre cœur et dans votre esprit. Consacrez tous vos efforts pour les réaliser. Ayez la foi et Dieu consacrera vos efforts honnêtes pour votre bien éternel. Faites cela et à la fin, tout ira bien. Je vous laisse ma bénédiction aujourd'hui et pour cette nouvelle année, afin que, tandis que vous vous efforcez de connaître votre Dieu, votre foi grandisse. En cherchant à suivre votre Sauveur, votre assurance deviendra grande. Lorsque vous marchez en sainteté et ouvrez votre cœur à la lumière du Christ, votre amour pour Dieu s'affinera et votre capacité à aimer votre prochain s'améliorera. Et tout cela vous donnera de la joie et vous apportera la paix. Un jour, vous recevrez une gloire éternelle. En ce jour, quand vous repenserez à cette précieuse et excitante aventure dans la condition mortelle, vous comprendrez. Vous verrez que les points se relient et forment un magnifique tableau, bien plus beau que ce que vous auriez pu imaginer. Avec une infinie gratitude, vous y verrez que Dieu, lui-même, dans son amour infini, sa grâce et sa compassion étaient toujours là pour veiller sur vous, vous bénir et guider vos pas tandis que vous vous approchiez de lui. J'en témoigne et je vous donne ma bénédiction en tant qu'un apôtre du Seigneur et le dis au nom sacré de notre Maître, le nom de notre Rédempteur et de notre Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre cher Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants pour cette occasion que nous avons eue de nous rassembler en ce jour de sabbat. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour Frère Ugdorf et son épouse et pour leur désir d'être avec nous ce soir et pour l'exemple et le message qu'ils ont partagé avec nous ce soir. Nous te prions de les bénir, qu'ils puissent ressentir notre amour et notre appréciation. Nous te demandons, Père Céleste, de nous bénir, de nous aider à être fidèles et à connaître ta volonté, savoir ce que tu veux que nous fassions, que nous soyons des instruments dans tes mains pour servir et aimer ceux qui sont autour de nous et pour partager la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants pour notre Sauveur et pour ce qu'il a fait pour nous. Aide-nous à utiliser son pouvoir plus intensément dans notre vie. Nous t'aimons et nous aimons ton Fils, Jésus-Christ. Nous aimons ton Évangile et nous sommes reconnaissants pour les bénédictions que tu nous donnes. Nous disons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.